J'ai des sources d'inspiration, des femmes célèbres et célébrées, des femmes à la capitale ou à l'étranger, des actrices, des artistes, des journalistes, des militantes, des activistes, des autrices, des sportives. Et c'est en me faisant cette réflexion que parallèlement, je repensais à ma mère, à mes grands-mères, à ces figures de femmes que j'avais sous les yeux tous les jours, celles qui m'entourent, qui m'ont bercée en me contant leur vie. C'est en songeant à leurs combats, leurs envies, leurs idées, leurs projets, que je me suis dit que de nombreuses femmes de nos territoires devaient être mises en valeur. Leur quotidien fait qu'elles sont des femmes d'exception et j'aimerais vous les présenter. Bienvenue chez les femmes de chez moi.
Bonjour chers auditeurs, merci d'être au rendez-vous malgré mon retard. Vous n'allez pas regretter d'être là, en toute objectivité. Aujourd'hui, nous rencontrons Lydie Palaric. Girondine, artiste, directrice de la forêt d'art contemporain, elle nous offre sa vision épurée d'un territoire qu'elle a fait sien, d'un milieu qu'elle a apprivoisé, de techniques qu'elle a domptées. Lydie nous raconte l'enfance et la solitude, l'art et la beauté, le temps et l'espace, l'étrangeté qui s'en dégage. Je vous en prie, laissez-vous donc conduire, et tant que je vous tiens, prenez quelques secondes s'il vous plaît, chers auditeurs, pour mettre des étoiles le plus possible, vous abonner et partager. Si vous en avez envie, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, j'en serai honorée. Bonne écoute. Bonjour Lydie Palaric.
Bonjour Margot.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être la 43e invitée des femmes de chez moi. Alors pour cette nouvelle saison, on a instauré un nouveau petit rituel, un rituel de présentation. Vous allez me donner trois choses pour parler de vous que peu de gens connaissent ou les gens de votre entourage très proches. Des choses qu'on ne dirait pas forcément quand on se présente en général.
Oui, c'est compliqué ça. Merci beaucoup Margot de m'avoir invitée, je suis très contente d'être là. Oui, trois choses qu'on ne dit pas forcément, trois choses un peu atypiques. Je travaille dans les arts visuels, ça c'est quelque chose que tout le monde sait de moi. Après, c'est vrai que j'ai une autre version un petit peu de ma vie qui est plus récente, mais qui ne concerne pas forcément les arts visuels. J'ai fait d'autres formations, j'ai fait d'autres choses comme ça pour le plaisir, notamment du côté un peu plus spirituel. Donc j'ai fait une formation cartomancie et lithothérapie. Et autre chose aussi complètement improbable, mais qui relie aussi beaucoup mon travail actuel, formation comptabilité, voilà, ce genre de choses. Donc c'est pas forcément des choses que je présente ou que j'affirme comme ça quand on me rencontre. Mais ça fait partie de ma vie aussi, voilà. Plutôt le côté voilà, cartomancie... La lithothérapie en ce moment, beaucoup, par exemple. Donc c'est un peu étonnant, je sais, mais voilà. Et pour le plaisir, voilà, beaucoup. Et puis d'autres choses, j'en parle pas forcément beaucoup parce que c'est aussi assez récent pour moi de le... Enfin, c'est quelque chose que je connaissais pas de moi et que j'ai connu là assez tardivement, on va dire. C'est que j'ai été diagnostiquée HPI-HPE. Donc ça, c'est clairement pas quelque chose que je vais forcément dire. D'ailleurs, j'en parle pas, sauf mes amis proches, ma famille sont au courant, mais parce que c'est pas, voilà, ça fait partie de ma vie, ça fait partie plus de choses. Moi, j'ai tendance encore à le vivre un peu comme un handicap aussi, donc voilà, c'est un apprentissage, voilà, plutôt qu'autre chose. Et puis un truc un peu fou, c'est vrai que je suis candidate à la fameuse émission Pékin Express par exemple, voilà, j'espère toujours, c'est-à-dire que je suis pas encore reçue mais je candidate voilà avec mon frère et on espère bien partir un jour par exemple.
Tous les ans.
On candidate, on a candidaté l'année dernière, on va recandidater là ouais cette année ouais. Enfin, en tout cas, je vais l'obliger à recandidater parce qu'il le fait quand même pour moi donc.
On va réévoquer un peu plus tard HPI-HPE, juste préciser, c'est haut potentiel intellectuel et haut potentiel émotionnel. Bon, ben merci beaucoup pour ces précisions qui donnent déjà un petit... qui dessinent un petit portrait quand même de la femme que vous pouvez être. Et donc, on va se lancer dans la découverte des souvenirs, des trois souvenirs que vous avez choisi d'évoquer avec nous, Lydie. Et le premier, c'est donc la naissance de votre frère.
Ouais, c'est le premier, je pense, souvenir merveilleux de ma vie. On a 8 ans de différence, donc c'est mon petit frère. Mais je l'ai vécu vraiment comme si c'était un peu mon enfant. Enfin, j'étais plutôt dans une relation petite maman. Enfin, je m'en suis occupée vraiment, même jusqu'à faire son bain. enfin, ce genre de choses. Et en fait, c'est pourquoi c'est un souvenir hyper fort. Bon, je pense que tout le monde, hein, la naissance des frères et sœurs, ouais, c'est quand même, ou des enfants, enfin, c'est quand même hyper fort. Mais particulièrement moi, parce que je crois que je l'ai attendu pendant ces 8 ans, je l'ai attendu, mais vraiment, quoi. C'était quelque chose. Et puis, voilà, mon histoire de famille fait aussi qu'il y a eu des traumatismes liés aux enfants, à la naissance d'enfants qui ne sont pas nés vivants, ou des choses comme ça pour ma mère, pour mes parents. Enfin, ça a été très dur et c'est des choses que j'ai vécues un peu inconsciemment aussi, sans le savoir, en prenant conscience aussi plus tard. Mais du coup, c'était très, je pense, inconscient pour moi à l'époque. Et le fait que ce petit frère arrive et qu'il soit en bonne santé et qu'il soit si merveilleux qu'il l'est toujours, c'est un beau souvenir, oui, c'est sûr.
Vous dites que vous l'avez attendu pendant 8 ans. Comment ça se matérialisait? Vous aviez la sensation d'une absence, d'un manque?
J'étais une petite fille qui s'ennuyait tout le temps. Alors ça, c'est aussi beaucoup lié au schéma HPI, mais je me souviens m'ennuyer constamment. Donc j'étais beaucoup dans la lecture, j'étais beaucoup dans mon monde à moi, en fait. Mais j'avais, je me souviens de réclamer tout le temps d'avoir soit des amis à la maison, soit... Oui, voilà, j'avais envie d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Et je pense que j'ai une petite sœur qui est née, qui est décédée, et je pense que ça, c'est quelque chose, voilà, comme je disais, dans l'inconscient, qui fait que j'ai attendu que ça arrive. Et voilà, enfin, il y a ce passage-là, ouais, qui était... Et puis j'ai ressenti aussi que dans notre histoire familiale, il y a eu un moment où c'était heureux, quand j'étais peut-être toute petite. Et puis ces faits-là, ces histoires-là ont été complexes. Et le fait que mon frère arrive, tout à coup, c'était redevenu heureux, quoi. Il y avait, c'est bon. On avait passé un cap de misère, on va dire. On avait passé un truc et il était là et tout allait mieux, finalement. Donc il a ramené la joie, en fait. Il a ramené quelque chose de beau, quoi.
Et donc là, aujourd'hui, c'est avec lui que vous voulez faire Pékin Express.
Exactement. Exactement.
Donc ça veut dire que la relation aussi, est-ce que vous avez réussi à créer avec votre petit frère, ça a été à la hauteur de toutes vos attentes?
Ouais, on se voit pas assez malheureusement. Voilà, parce que lui, il a un métier, il est gendarme mobile, donc il est immobilisé beaucoup partout. Mais oui, enfin, on a une relation, on a une relation très forte et on se comprend, parfois même sans se parler. En tout cas, je lui poserai la question pour lui si c'est pareil, mais effectivement, moi, c'est comme ça que je le ressens.
Le second souvenir que vous avez choisi d'aborder aujourd'hui, Lydie, ce sont vos années Beaux-Arts.
Oui, mes années Beaux-Arts. Ben oui, j'ai été étudiante à l'école des Beaux-Arts à Bordeaux. J'y ai fait 5 ans. Pourquoi c'était important pour moi, cette école? Elle restera toujours, je pense, marquée ma vie, c'est sûr. Parce que déjà, une école d'art, c'est pas anodin. C'est pas la même chose que de faire une autre école autre. L'école d'art, c'est beaucoup. On est beaucoup dans l'expression de soi, dans l'intériorité. C'est comme faire 50 psychanalyses à haute dose, quoi. Une école d'art, c'est, tu vas vraiment chercher en toi le truc qui va pas ou qui va, et t'essaies de le faire ressortir pour pouvoir exprimer des choses en œuvre ou autre. Donc déjà, c'est hyper fort. Et puis, en fait, moi, j'essaie de correspondre aussi beaucoup à ce qu'on attend de moi depuis toute petite. Voilà, c'est ça fait aussi partie de mon schéma HPI. C'est que je force le trait, c'est-à-dire que on appelle ça un faux self. C'est-à-dire qu'on peut pas être soi-même parce que la société fait que on peut pas vraiment s'exprimer et être vraiment et dire les choses et être vraiment la personne qu'on ressent qu'on est. Donc on va regarder comment les autres fonctionnent. Et apprendre comment les autres fonctionnent et faire pareil et suivre pour avoir des amis, pour être bien avec sa famille, pour que les parents soient contents, etc., etc. Et moi, en fait, depuis très très jeune, j'ai appris à faire ça pour m'en sortir. Donc j'ai aussi beaucoup un problème de savoir encore aujourd'hui des fois est-ce que je suis vraie ou pas, quelle position je peux me donner. J'essaye de regagner ma vraie personnalité. C'est un long parcours et c'est assez compliqué. Mais du coup, la seule chose sur laquelle j'ai tenu bon et j'ai pas voulu correspondre aux autres, c'est que depuis toute petite, j'ai toujours voulu être artiste. J'ai toujours dit que je voulais faire ça et que c'était dans le milieu art visuel, art contemporain que je voulais être. Voilà, mais depuis vraiment toute petite, en primaire déjà. Donc c'est quand même quelque chose qui est difficile à accepter quand on a des parents qui sont à la campagne, qui connaissent pas ce milieu, qui sont agriculteurs, à qui ça peut faire peur. En fait, je leur en veux pas du tout, c'est normal. Enfin, c'est comme dire je veux être acteur ou je veux être chanteur. Enfin, voilà. Devenir artiste, ouais, c'est quelque chose qu'on connaît pas forcément. On sait pas ce qu'on apprend dans une école d'art, c'est pas limpide, quoi. Et on sait pas aussi quel débouché, voilà. Parce que forcément, il faut quand même avoir un travail, un salaire, voilà, etc. Il faut que ça tombe à la fin du mois, il faut pouvoir vivre de façon autonome, on peut pas être au crochet des parents, tout ça. Donc mes parents, ça leur a fait peur. Seule chose que je comprends, donc ils ont toujours, pendant longtemps, évacué cette idée-là et essayé de la mettre loin de moi en disant « t'as le temps de savoir ce que tu veux faire quand j'étais en primaire, puis quand j'étais au collège, t'as encore le temps de savoir ce que tu veux faire, etc. etc. » Jusqu'au moment où, en fait, je pense qu'il y a eu une espèce de lâcher-prise à un moment, parce qu'ils se sont dit « on va pas pouvoir lutter tout le temps non plus. » Donc, par exemple, mon père m'a payé quand même des cours particuliers d'art parce que je suis arrivée dans un lycée où il n'y avait pas cette option, alors que j'avais demandé le lycée avec l'option, mais que je n'ai pas, pu y aller. Il y avait trop de demandes et voilà. Et mon lycée de secteur, c'était un autre, donc on m'a renvoyée au lycée de secteur. Donc ça, je l'ai vécu comme un traumatisme fort. Enfin, j'étais très déprimée. Je pense que j'ai vraiment fait une dépression, en fait. Et mon père a vu ça. Je pense qu'il l'a senti. Et il a trouvé que... Enfin, voilà, il a fait ce geste-là de me payer des cours en plus. Et j'ai évidemment bien apprécié. Ça m'a bien aidée pour ensuite intégrer le lycée que je voulais avec cette option. Faire ce parcours-là, rien lâcher, malgré les avis de tous. Hein, la prof d'art plastique, les conseillers d'orientation, les parents, tout le monde. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et de dire, même la prof d'art plastique, pareil, je lui en veux pas, mais elle me disait, tu sais, moi je suis passée par l'école des beaux-arts, j'ai pas pu rester, c'était compliqué, quoi. Hein, c'était très bienveillant, hein, tout ça, c'était de me prévenir, voilà, de ce que c'est, et que je sorte un petit peu de ma naïveté aussi. Mais malgré tout, ça m'a jamais quittée, en fait. J'ai toujours eu cette sensation-là que c'était là qu'il fallait que j'aille. Donc j'ai passé le concours. J'ai passé le concours en me disant je vais y mettre les pieds une fois et puis fini quoi. Mais j'aurais tenté le truc et puis c'est tout. Enfin, je serais allée au bout de ma démarche. Je pensais jamais être prise. Je pensais pas. On m'avait tellement dit voilà. Et c'est 2 jours après le concours que la prof d'art plastique a débarqué dans la cour du lycée en toute folle. Je ne savais pas ce qui pouvait lui arriver. Et qui m'annonce ça, mais j'avais même oublié qu'il y avait les résultats à attendre, en fait. J'étais persuadée et j'étais très heureuse d'aller passer ce concours. J'avais un sourire jusque-là, j'avais rencontré les profs, j'avais montré mon travail. Pour moi, c'était déjà réglé, j'avais eu ce que j'avais. Ils m'avaient écoutée, c'était déjà énorme. Et ouais, non, j'étais reçue et très très bien en plus. Donc c'était un beau cadeau. Et puis derrière, 5 ans magnifiques. Alors avec, c'est ce que je disais, c'est une psychanalyse de 5 ans, avec des hauts, des bas. C'est une école qui n'est pas du tout scolaire. Alors il faut tout déconstruire de ce qu'on connaît, des schémas scolaires. Donc quand on arrive, c'est un peu, c'est vraiment très complexe. Mais 5 ans merveilleux de production, de réflexion, d'aller au fond des choses, de rencontres avec des enseignants super, des camarades aussi, voilà, vraiment. Donc ça a changé ma vie et c'est vraiment aussi l'endroit où j'étais vraie, moi. Voilà, enfin, sans forcément de faux semblants, de faux self, j'étais dans mon univers, quoi. Mais alors, ce qui est très étonnant, c'est que j'étais enfin dans mon univers, mais j'étais quand même encore décalée par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'avant, au lycée, j'étais l'artiste. Et au Beaux-Arts, j'étais peut-être la plus, entre guillemets, normale de tous. J'étais pas la plus excentrique, j'étais la moins excentrique, pour le coup. Donc j'ai toujours été, de toute façon, la fille la différente dans n'importe quel contexte. Donc, c'est adaptabilité maximum.
Cette envie d'être artiste, elle date de presque toujours. J'aimerais bien, du coup, que vous nous parliez peut-être de votre rapport à l'art. Avant d'intégrer cette école des beaux-arts qui est pleine de prestige dans l'imaginaire collectif, c'était quoi l'art pour vous? Qu'est-ce qui a fait que, petite fille, vous avez dit « je vais être artiste » alors que ce n'était pas du tout, effectivement, votre milieu?
Oui, alors moi, je viens plus de... Toute petite, j'étais plus dans la littérature. C'était mon moyen de m'échapper un peu et d'être dans ma bulle aussi. Et puis, c'était drôle parce que j'avais compris que quand je tenais un bouquin, les autres, ils me foutaient la paix aussi. Donc il y avait cette forme de légitimité. Tout à coup, les parents étaient plus derrière moi. Elle est en train de lire. On va la laisser, tout va bien. Donc moi, j'avais besoin de ça, c'était parfait. Et j'avais une grand-mère que je voyais peu, enfin peut-être je sais pas, une fois tous les deux mois, trois mois, mais qui était fan de littérature et d'art. Et elle me nourrissait en bouquins, comme ça, tranquillement. Et je sais pas, elle m'avait toujours dit, oh là là, toi, t'es différente, il y a un truc, t'es pas comme les autres. Elle a 19 petits-enfants. Elle n'est plus là malheureusement, mais elle avait donc 19 petits-enfants, dont le dernier c'est mon frère justement. Et parmi les 19, elle me regardait vraiment en me disant « celle-là est vraiment bizarre ». Et en même temps, ça lui plaisait bien, elle cherchait à savoir quoi. J'ai un autre cousin, j'ai un cousin qui faisait beaucoup de peinture en autodidacte, mais très réaliste. Magnifique. Et j'étais complètement subjuguée par ce qu'il pouvait faire. D'autant plus qu'elle, elle était fan aussi. Donc elle me montrait ce qu'il faisait. T'as vu, ton cousin, il fait ça. T'as vu, c'est magnifique. Et tout ça, on allait aux expos et tout. Et je pense que ça a démarré comme ça, en fait. Ça a démarré sur la littérature et puis les peintures de mon cousin. Et puis, comme elle a vu que ça m'intéressait bien, elle me disait, regarde ce que c'est que la peinture. Regarde avec moi ce que c'est les grands maîtres de la peinture. Donc elle m'a montré... Elle m'a initiée à plein de choses, en fait. Mondrian, Malevitch, enfin, tous les grands peintres. Et elle a vu que chez moi, il y avait du répondant, donc elle a continué. Donc je pense que c'est à ce moment-là que ça a germé.
En quoi cette école des beaux-arts a modifié alors votre rapport à l'art? Après ces 5 années, qu'est-ce que ça a fait évoluer chez vous?
Il a changé forcément. Enfin, c'est une éducation au regard, c'est une éducation théorique aussi, une école d'art. C'est plus que ça s'est déplacé d'un point de vue, on va dire, esthétique à un point de vue plus conceptuel. Mon regard sur l'art, il a acquis en conceptualisation, enfin en théorie, voilà. Donc j'étais plus dans une démarche esthétique, visuelle, rendue avant, même si après, avec la pratique... collège-lycée avec l'option art plastique, on passe du côté du concept de qu'est-ce que raconte une œuvre, qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce que ça évoque. Ça a été très très fort à l'école des beaux-arts, c'est-à-dire que dès lors à l'école des beaux-arts, je ne dessinais pas juste pour dessiner. C'était vraiment du coup juste la réflexion, ma réflexion intérieure, ce que j'avais envie de dire, comment je voulais m'exprimer, qui allait... induire le geste et le faire et l'objet et l'œuvre. Mais c'était plus un geste spontané de création. Ça a été c'est basculé à l'inverse. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie question. Il y a beaucoup d'artistes qui sont contre ça et qui reviennent au geste spontané. Et après, ils regardent et ils se disent, voilà, en gros, ça m'évoque ça et ça parle de ça. En fait, à l'école des beaux-arts, j'ai quand même appris à renverser le truc. C'est-à-dire, j'ai quoi en moi, je veux dire quoi, j'exprime. C'est pas j'exprime et je veux dire quoi. Mais voilà, c'est l'inverse. Donc ça s'est déplacé comme ça. Et maintenant, je pense que je suis capable de faire les deux dans les deux sens. Mais voilà, c'est par quel bout on entre dans la pratique et voilà. Et comment on comprend une œuvre aussi.
Et selon vous, quand est-ce qu'on peut se dire artiste ?
Ça, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. J'ai longtemps pensé que... en fait, pour moi, artiste, c'est aussi c'est un métier, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, je suis un produit d'une école d'art. Donc, du coup, évidemment, pour moi, l'école et le diplôme de l'école mènent à un statut d'artiste. Après, on se déclare, voilà, c'est le numéro tiré, c'est des préfectures, machin, la maison des artistes, etc. Quand on est déclaré artiste, on est artiste, quoi. Enfin, mais je pense que c'est pas seulement ça, évidemment. Je pense qu'on peut être artiste aussi de nature, dans l'esprit. Je pense que moi, quand je suis aussi directrice de la Forêt d'Art Contemporain, quelque part, je suis quand même artiste aussi. Enfin, et je pense que... quelqu'un qui crée, qui donne à voir ce qu'il a à l'intérieur aussi peut être artiste. Alors c'est une chose de se dire artiste et de l'être vraiment et de travailler et d'avoir ses revenus via cette pratique-là. Mais à différents niveaux, on peut être artiste, ouais. Donc c'est compliqué comme, comme question.
Donc, vous, Lydie, vous êtes artiste. Comment parleriez-vous de votre carrière artistique ?
Carrière, déjà je pense que je ne dirais pas carrière. Okay. Moi, j'ai fait des études d'art, voilà, je suis plasticienne, ça fait quoi ? Ça fait 12 ans que je suis sortie de l'école, 12 ans que je pratique, puisque j'ai une pratique photographique, j'ai une pratique de l'écrit, j'écris, j'ai une pratique vidéo, un peu de dessin, voilà, très peu, hein, mais voilà. Donc c'est quelque chose que je continue. J'ai eu l'occasion d'exposer, j'ai eu l'occasion de partir en résidence. Mais mon activité principale, ce n'est pas celle-ci. Voilà. J'ai une activité principale qui est à la Forêt d'art contemporain et puis d'autres choses aussi par côté. Donc voilà, moi, c'est quelque chose sans doute que je reprendrai peut-être plus tard quand mes autres activités seront moindres. Mais là, je n'ai pas en fait l'espace-temps et la liberté d'esprit de pouvoir me replonger vraiment dans ma pratique et l'exploiter vraiment. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est à la marge pour l'instant et que j'ai laissé plutôt de côté, même si je suis sur une série, par exemple, de portraits de personnalités, de personnes, en fait, qui me racontent leur récit de vie. Assez étonnant, un petit peu comme toi, comme vous, Margot, pardon. Donc, des récits de vie et puis des portraits de ces personnes-là chez eux qui croisent leur vie aujourd'hui, leur vie d'avant et donc dans leur décor même, en fait, c'est une projection de leur portrait, eux physiquement et dans leur décor d'habitation. Donc ça, c'est une pratique que je continue toujours, que j'ai pu exposer, que j'aimerais beaucoup aussi éditer un jour. Mais je le fais, par exemple, sur des rencontres, des rendez-vous. Et par exemple, l'année dernière, j'ai fait 2 portraits. Voilà. Donc, on ne va pas parler de carrière, on va parler de projet, on va parler d'avancer dans les séries photographiques et les diverses envies que je peux avoir. Ou même des séries ou des choses, des écrits, des dessins que je peux faire moi, comme ça, de mon côté, que je n'ai pas montré depuis 5 ans ou quoi, mais qui sont là, qui existent, que peut-être je montrerai un jour ou pas. Enfin, c'est pas mon activité principale, c'est une activité qui m'est nécessaire pour mon équilibre, qui reviendra forcément un jour en étant plus principale, mais qui ne l'est pas aujourd'hui. Donc c'est, je dirais, ma carrière artistique à suivre.
J'ai envie qu'on parle un petit peu de la vidéo et des installations, parce que ce sont des pratiques artistiques que vous avez exploitées et explorées. Et vous vous confrontez, je cite, à l'espace et son potentiel énigmatique. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que vous vous confrontez donc à l'espace et son potentiel énigmatique ?
Alors, en fait, je devrais dire plutôt qu'espace, j'aurais tendance à dire plutôt la vie de tous les jours, le quotidien. Son potentiel énigmatique. En fait, on fait plein de il y a plein de choses dans notre vie de tous les jours. On ne fait plus attention parce qu'on passe à côté tout le temps. Et ça nous paraît normal. Et en fait, il faudrait juste faire cette expérience de s'arrêter 2 secondes, de regarder mieux. Et là, ça nous paraît bizarre. c'est étonnant, mais c'est ça le potentiel énigmatique dont je parle. C'est l'étrangeté de Freud, en fait. C'est tout à coup, je connais bien cette personne. Je la connais, je la vois tous les jours. Mais là, je m'arrête, je la regarde. En fait, je me dis, ah, c'est ça son visage, en fait. Ah oui, il est étrange, c'est bizarre, je ne le voyais pas comme ça. C'est un peu cette étrangeté-là. Et donc, dans mon travail photographique et vidéo aussi, j'ai toujours eu ça, c'est que passer par le biais de l'objectif photographique, en fin de compte, qui est déjà... un point de vue, il y a un hors-champ qu'on ne voit pas, et ben, du coup, ce point de vue-là, ce cadre-là, même s'il photographie quelque chose de complètement banal, une chaise, une table, quelque chose comme ça, un environnement, enfin, ce point de vue-là, il a quelque chose d'étrange. Et il dégage ça. Et dans mon travail photographique, c'est toujours ce que j'ai essayé de mettre en valeur, c'est ce degré-là d'étrangeté. Tout à coup, c'est une scène, c'est un film potentiellement qui peut s'y dérouler, c'est comme une mise en direct, c'est mis en scène alors que pas du tout, c'est juste le salon de telle famille, tel endroit qui est vrai, qui est réel, mais en tout cas, photographié, cadré, avec la lumière aussi, la lumière joue beaucoup évidemment, et bien tout à coup on est dans une composition étrange, énigmatique, donc c'est tout ça dont je parle dans un espace... avec potentiel énigmatique. Sur l'installation et la vidéo, alors mon travail est quand même beaucoup plus photographique, mais j'ai un petit peu touché la vidéo, donc installation, quand on fait travailler, on fait dialoguer de la photo, de la vidéo, du texte, et que tout ça, on le met un petit peu en scène au mur ou même dans un espace, voilà, on parle d'installation. Et ce potentiel énigmatique, forcément, c'est aussi cet écart qui se joue entre la photo que je vais présenter à tel endroit et la vidéo qui répond ou qui répond pas, mais qui joue un lien particulier entre... qui raconte une histoire. Et au final, ce qui est hors-champ, le hors-champ, c'est aussi ce qu'on se fait dans notre tête, entre « tiens, j'ai vu telle photo, ça m'évoque ça, je vois telle vidéo ou tel objet, ça m'évoque ça, et du coup, quelle histoire je crée entre tout ça ?» C'est ça aussi, ce potentiel, cette projection. C'est le hors-champ, c'est la troisième image, en fait. C'est le récit qu'on se fait dans l'imaginaire. Et c'est sur ça aussi que je travaille beaucoup, en aiguillant et en donnant à voir des choses, laissant aussi le spectateur, le public, voilà, se faire sa propre histoire. Mais du coup, normalement, la projection que je veux faire, elle y est, quoi. Sans y être... visuellement, mais elle est dans la tête. Donc c'est, voilà, le potentiel énigmatique, voilà, encore une fois, pour moi, il est là et il se joue aussi dans ces instants d'installation ou de vidéo que je peux faire.
La photo, comment vous êtes arrivée à ce médium-là ?
Oui, c'est vrai que j'étais beaucoup dessin-peinture avant. D'ailleurs, quand j'étais à l'école des Beaux-Arts, j'étais en section peinture. Et puis progressivement, en section peinture, je n'ai fait que de la photo. Ça pose pas de problème aux Beaux-Arts, c'est libre. Et je pense que j'ai eu le déclic avec... c'est une artiste qui s'appelle Cindy Sherman, que j'ai eu un choc, mais c'était au lycée. Hein, c'était déjà au lycée avec cette artiste-là. Je pense que parce que beaucoup de son travail, c'est sur l'apparence, et c'est sur la mise en scène, le jeu... elle se met en scène elle-même, donc c'est jamais elle, on parle d'autoportrait alors que ça n'en est pas, enfin, il y a ce côté elle se donne à voir mais c'est pas elle. Et je pense que moi, mon histoire de vie fait que voilà, le problème que j'ai eu d'identité aussi m'a beaucoup touchée quand j'ai vu ce travail-là. J'avais pas conscience de ça à l'époque, mais je pense que c'est pour ça. J'ai beaucoup travaillé sur la question d'apparence quand j'étais à l'école d'art. Ça a été lié pendant les 5 années, comment on se présente, qu'est-ce que c'est qu'un autoportrait, un portrait, comment les gens se donnent à voir, dans telles conditions, comment on est multiple, en fait. Ça m'a... Donc, le travail de Cindy Sherman, voilà, en photographie, ça a été assez fort. Et en fait, j'ai ce souvenir d'un anniversaire à moi, alors je ne sais plus quel âge j'avais, et j'ai des copines qui m'offrent, qui savent que je... Je ne crois pas que j'étais aux Beaux-Arts encore, mais ils savent que je vais aller aux Beaux-Arts. Enfin, c'est ma voix, ça y est, c'est officiel, super, tout le monde est content. Et elle m'offre un numéro particulier de Beaux-Arts Magazine spécial photographie contemporaine. Voilà, je pense que là, c'était clair. J'ai adoré ce truc. J'ai plongé dedans et puis j'ai toujours après continué peinture, photo et puis après photo. Puis j'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui m'ont aiguillé aussi vers ça, et notamment quelqu'un de très particulier pour moi qui était à l'école d'art et qui était technicien photo et qui m'a beaucoup soutenu pendant 5 ans, avec qui j'ai fait beaucoup de projets et de choses. Ouais. Donc ça marque aussi ça.
La photo, donc vous nous expliquez qu'on vous a bien guidé pour arriver aussi à faire vos premiers pas et aller vers une pratique qui vous correspondait. Et vous avez fait ce chemin aussi après avec des étudiantes et des étudiants des Beaux-Arts.
Oui, ça s'est fait progressivement, en fait, parce que j'ai été assistante dans le studio photo de l'école quand j'étais étudiante. C'était un poste... c'est un poste qui était ouvert aux étudiants précaires, où j'étais, pour leur permettre de poursuivre leurs études dans l'école et en même temps d'avoir un salaire et d'être rémunérée, c'est-à-dire que j'avais quelques heures de travail à l'école. Donc j'ai d'abord été assistante dans ce studio-là. Et puis ensuite, j'ai quitté donc l'école et je suis revenue en tant qu'enseignante, mais pour les pratiques libres, c'est des pratiques amateurs, donc c'est des cours un peu du soir. Et c'était des la théorie des images photographiques. Donc c'était plutôt des enseignements, des cours, des conférences en fait, sur qu'est-ce que c'est qu'un selfie, qu'est-ce que c'est que le portrait, le paysage, qu'est-ce que c'est qu'un observatoire photographique, enfin, sur des thématiques un peu particulières. On allait voilà, détailler, chercher dans l'histoire de l'art, chercher et puis théoriser un petit peu sur comment, qu'est-ce que ça veut dire l'image, comment est-ce qu'elle est diffusée, etc. Ouais, ça, j'ai fait ça quelques années. Et puis comme tout est, ce qui est bien, c'est que comme tout est fluide dans une école d'art, c'est qu'il y avait quand même aussi des étudiants qui venaient du coup aux cours. Puis ils avaient, enfin voilà, on choisit un peu les cours qu'on veut faire. Donc on avait un groupe à la fois de pratiques amateurs, d'étudiants qui étaient là. Et c'était des beaux moments de partage pendant 2 heures ou 3 heures de discussion de cours et de discussion, de débat au sujet de tout ce que peut apporter en matière de réflexion une photographie ou un corpus de photographie.
Et aujourd'hui, vous êtes directrice de la Maison de la photographie des Landes. Comment vous êtes arrivée à ce poste et puis en quoi ça consiste ?
Alors oui, directrice, on dit aussi commissaire d'exposition, ce sera peut-être plus précis d'employer ce terme-là, même si c'est vrai que pour... Enfin, c'est un terme un peu gros, mais en gros, c'est le choix de la programmation, des résidents, des expositions, la construction de tout ça, la rédaction des textes, etc., pour dynamiser un petit peu ce lieu, etc. Donc comment je suis arrivée là ? En fait, du coup, j'ai été résidente moi-même en tant qu'artiste, donc sous la programmation de Frédéric Desmesures en 2016. Donc j'ai fait une résidence. C'est là que j'ai démarré cette fameuse série de portraits, en fait, de personnalités un petit peu locales, mais avec des histoires, voilà, des histoires extraordinaires. Et donc Frédéric Desmesures m'avait évoqué à l'époque le fait qu'il arrêtait il souhaitait arrêter sa mission de commissaire et il souhaitait que ce soit aussi un des artistes, des photographes qui fait une résidence dans ce cadre-là, qui prenne le relais. Et donc, bon, moi, j'étais pas du tout prête sur cette question-là à l'époque. Et puis, il y a eu d'autres résidences après. Et puis, bon, j'ai plus entendu parler de cette histoire. Et Fred a continué un petit peu à faire d'autres années aussi. Parce que tout le monde était très content de son travail. Je pense qu'il a voulu rester aussi. C'était difficile de quitter ce lieu, etc. Et puis finalement, il a fait une restitution, un catalogue et une belle expo de restitution. Et derrière, la mairie a passé une annonce, en fait, en disant qu'il recherchait un nouveau directeur, directrice artistique, commissaire, voilà, pour les aider dans cette programmation. Moi, au début, j'étais pas... Voilà, j'ai d'autres activités, hein, j'ai d'autres choses, mon temps est bien plein, enfin, mon planning est bien plein, donc j'avais pas forcément prévu de candidater. On en a beaucoup discuté avec d'autres photographes qui avaient fait la résidence, avec d'autres personnes qui se tâtaient à savoir si candidater ou pas. Et puis au final, c'est vrai que j'ai un attachement très particulier à ce territoire et très particulier à Félix Arnaudin, c'est la maison de Félix Arnaudin, donc... cet illustre ethnologue, photographe landais, voilà, à qui on doit beaucoup. J'ai découvert cette pratique quand j'étais toute petite à la Galerie des Carmes à Langon. Et ça, c'est pareil, c'est peut-être ça aussi qui m'a fait venir à la photographie, hein, plus que Cindy Sherman, finalement. Enfin, on retrouve des trucs plus anciens. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marquée. Donc, j'ai toujours suivi ce qui se passait à la Boire et à la Maison de la Photo. Donc, je me suis dit, allez, bon, c'est peut-être le moment aussi de se lancer parce que ça m'intéresse vraiment. Enfin, moi, la photographie, c'est quand même, on l'a vu, hein, avec l'enseignement que j'ai pu faire à l'école, mes études qui ont été ancrées en photographie aussi, c'est quand même mon ADN, en fait, à la base. Donc ouais, j'ai voulu quand même y aller. Et puis, voilà, on s'est bien entendu avec plusieurs personnes ont candidaté. Finalement, ils m'ont retenu. Et puis, ça s'est lancé. C'était fin 2019 hein, qu'on a démarré. Donc malheureusement, on a quand même démarré avec une année 2020, voilà. Une année 2020 qu'on connaît, hein, donc ça... On a démarré, puis on a arrêté. on s'est recalé, et puis on a démarré en 2021 ce qu'on a pu démarrer, et puis je pense que c'est lancé, là. Voilà, c'est lancé.
Cette maison de la photographie des Landes est donc située à La Boire, comme vous venez de le dire, La Boire, qui est dans le parc naturel régional des Landes de Gascogne. Et qu'y a-t-il dans le parc naturel régional des Landes de Gascogne ? La forêt d'art contemporain. Eh oui. Et cette forêt d'art contemporain, Alors là, on dit quoi ? Commissaire, directrice ?
Non, là, pour le coup, je suis directrice. Ah.
Donc, vous êtes, Lydie, directrice de la Forêt d'Art Contemporain. Bah là, ça m'intéresse aussi de savoir comment vous êtes arrivée à ce poste.
Oui, je comprends, c'est un peu... oui, la Forêt d'Art Contemporain, ce sont des œuvres à ciel ouvert sur le territoire du parc naturel. Donc, il y en a 25 aujourd'hui. Des œuvres assez monumentales, il n'y a pas forcément de cahier des charges, il y a de tout. Et c'est à chaque fois des belles expériences et des belles histoires. J'y suis arrivée, ça fait 12 ans maintenant, je suis arrivée en 2010. Ouais. J'ai été diplômée de l'École des Beaux-Arts en 2009, je suis arrivée en 2010 à la Forêt d'Art. Alors, ça ne s'appelait pas la Forêt d'Art à l'époque, ça s'appelait AGIAC, Association Gestionnaire d'un Itinéraire d'Art Contemporain. Et donc, en fait, je suis arrivée là-dedans parce que suite à mon diplôme, j'étais inscrite en préparation à l'agrégation à l'université Michel Montaigne. Mais en même temps, je remplaçais la coordinatrice de l'École des Beaux-Arts qui était partie en congé maternité. Et en même temps, je cherchais à voir qu'est-ce que je pouvais faire d'autre parce que j'avais le temps, forcément, évidemment. Et je m'ennuyais, quoi, tu vois. Et puis j'ai vu passer cette annonce. Alors je l'ai eue par Pôle emploi, une petite annonce qui dit en gros plusieurs structures ayant déjà fait des choses dans l'art contemporain sur la Haute-Lande se réunissent, réfléchissent à faire quelque chose en commun sur le territoire du parc. C'était très mystérieux, mais vraiment, il faudrait que je retrouve cette annonce parce que vraiment, pour moi, elle était très mystérieuse. Et en fait, je me suis dit, ça vaut peut-être le coup d'aller les trouver, ces gens, pour voir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Et j'y suis allée et puis je ne suis plus jamais repartie. En gros, c'est ça. Je les ai rencontrés. Très, très belle rencontre. J'étais très jeune, 24 ans. Ouais, j'étais très jeune, ouais. Tout est relatif, mais bon, bref. Je pense que j'étais surtout très jeune dans la tête. J'avais surtout le langage beaux-arts et j'étais un pur produit d'une école d'art et tout ça. Et j'avais pas ce... Enfin, je pense que j'étais très éloignée de la personne que je peux être aussi aujourd'hui. Donc j'ai tout appris avec eux sur le terrain et ça s'est lancé. Voilà, on a formalisé un petit peu leurs envies, leurs idées. On a démarré en cherchant des partenariats, les élus sur le territoire, en faisant des réunions qu'on appelait les assemblades pour savoir si d'autres personnes voulaient se joindre à nous et participer à l'histoire. Ça a pris, les partenaires nous ont suivis. Premier projet qui n'a pas abouti, mais c'est pas grave, ça m'avait quand même bien traumatisée à l'époque, mais bon, là, évidemment, ça fait partie des choses qui forcent, qui forgent le caractère. Et puis, à partir de 2011, 5 œuvres, boum, en une année. Et puis ensuite, chaque année, 1, 2, 3, des années où il n'y en a pas, parce qu'on est en train on est à la réflexion. Et puis, du coup, 11 ans, enfin 12 ans, du coup, mais 12 ans, 25 œuvres, et une dizaine de projets en cours, et voilà, donc je suis passée de l'autre côté, c'est-à-dire mon activité principale, du coup, ce n'est pas d'être artiste, mais d'aider les artistes. Et ça me va bien parce que du coup, moi, je suis plus dans le champ de l'image, de la photographie, qu'eux sont plus aussi beaucoup dans le champ de la sculpture ou de l'installation extérieure. Et en même temps, c'est très... C'est parfait aussi, et j'ai beaucoup ce retour-là de la part des artistes, parce qu'ils me disent qu'on a enfin affaire à une administratrice, entre guillemets, qui est en fait une artiste et qui comprend ce qu'on lui raconte, et qui, du coup, vient de la même... des mêmes écoles que nous, enfin, de la même pratique que nous, quoi, quelque part, même si c'est pas le même médium, mais c'est, on parle le même langage, et donc, et du coup, souvent, ça, c'est quelque chose qui a été plus une force. Je suis pas une vraie administratrice, quoi. Pas que. Donc, c'est un mélange des genres qui je pense, a fait ma force à cet endroit-là.
Donc vous avez parlé d'œuvres monumentales. Ce sont des œuvres qui sont effectivement en extérieur, qui sont accessibles donc gratuitement. C'est un projet qui mêle donc l'art, la nature, la ruralité aussi. Comment vous avez réussi à mixer ces trois entités qui, dans l'imaginaire collectif, sont peut-être pas forcément reliables ou pas de manière évidente, en tout cas?
En fait, c'est évident, finalement, quand même. Déjà, dans l'ADN de la Forêt d'Art Contemporain, il y a le parc naturel. C'est un des membres fondateurs. Donc, c'est... Comme je le dis, vraiment, c'est l'ADN. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans des paysages, on s'inscrit sur un territoire. Et c'est pas l'œuvre qui arrive toute faite et qui se pose là. C'est un espace, avec ses qualités, avec ses particularités, qui se donne à voir. Et un artiste saisit ça pour faire un projet et faire une œuvre qui va être in situ, donc qui va être vraiment réalisée pour cet endroit-là. Donc c'est toutes les œuvres sont réalisées, sont construites pour ces lieux-là. Elles n'ont pas été produites ailleurs, dans un autre festival ou dans notre expo, et ensuite, bah tiens, il me reste ça dans mon dépôt, je ne sais pas quoi en faire, on le met à la forêt d'art. Non, c'est des constructions sur long terme, 2-3 ans de travail avec la population, avec l'artiste qui est là. C'est des expériences, des échanges, du partage autour de qu'est-ce que c'est notre village, qu'est-ce qu'on veut dire de lui, quelle est notre identité, en fait. Cet espace-là de bord de lagune ou de forêt ou de cœur de village, qu'est-ce qu'il veut dire? Comment on s'en sert? Quelles sont les pratiques? Et c'est comme ça que l'artiste va formaliser un projet qu'il soumet, qui est alimenté par tout le monde. Et donc la question de l'environnement, de la nature, elle est présente, mais à chaque instant, en fait. C'est une évidence. C'est aussi ce jeu de se dire, voilà, on fait découvrir de l'art, mais c'est au prétexte aussi de faire découvrir des patrimoines naturels exceptionnels. Les Landes, c'est pas que des pins, hein, c'est aussi pas mal de belles pépites partout. Donc c'est double entrée, c'est aussi cet apport culturel qu'on doit à cette population qui est, on qualifie ce territoire de désert culturel. C'est pas moi qui le dis, mais en gros, voilà. Donc du coup, cet art visuel qui n'est pas présent forcément par ailleurs, ben on l'apporte, il est gratuit, il est là, et tout le monde peut s'en saisir, et même tout le monde peut le faire avec l'artiste. Et en même temps, il valorise aussi le village, l'identité territoriale, le patrimoine naturel bâti, l'essence même de ce territoire-là par différents regards et approches artistiques.
Et les gens, les habitants et habitantes de la Haute-Lande, enfin de ce parc, se saisissent réellement, vont contacter des artistes, vont produire ?
Difficilement. C'est pour ça qu'on a une charte, on a un protocole en fait, où on a plein d'étapes à ne pas manquer. Et même on en rajoute, à chaque fois c'est quand même au cas par cas, mais on a quand même des étapes crucial pour fédérer, pour amener ces projets et associer le plus de monde possible. Après, les personnes qui sont les plus réfractaires, qui viennent, c'est pas non plus hyper courant, mais on a des personnes voilà, qui sont complètement contre, qui viennent, qui viennent nous dire, etc. Et moi, je trouve ça très bien parce que du coup, ça fait quand même avancer les choses hein, de s'exprimer. Et ben, au final, c'est quand même les meilleurs ambassadeurs après. C'est-à-dire que ces personnes-là qui font cette démarche-là viennent à notre contact, donc nous on explique, ils nous expliquent leur point de vue aussi, ce pourquoi ils sont contre. Du coup, on va travailler avec eux pour apporter dans l'échange et dans la pratique de quoi résoudre leurs problématiques. Et ainsi, on arrive à des œuvres qui sont en correspondance aussi et du coup, c'est eux qui vont venir expliquer aux personnes qui passent qu'est-ce qu'ils ont vécu là avec l'artiste, avec les gens qui sont venus. Ah, c'était bizarre, hein. Ils vont dire c'était bizarre, on nous a apporté un artiste. Voilà, on n'en connaît pas, nous, ici. Et ils nous ont apporté ça. Mais on a fait avec lui, et puis on est allé boire un verre avec l'artiste, et puis on a discuté le bout de gras, et puis voilà, on s'est entendu, et tout va bien. En gros, c'est ça, c'est aussi créer des moments pour de vie en fait, de quotidien, mais pour fédérer, pour associer, mais en fait c'est des prétextes. C'est ça génère des œuvres d'art, mais en fait c'est des prétextes à une dynamique artistique, une dynamique territoriale, à des animations, à des rencontres, à des échanges en fait intergénérationnels. C'est tout à coup comment il y a sur un territoire où il y a d'autres propositions, mais comment dans ces propositions là dans ces animations-là, à un moment donné, on se sert de ça pour juste se rencontrer et échanger, en fait. Parce qu'au final, même si on ne parle pas de l'œuvre ou on ne parle pas d'art, ce n'est pas grave, mais on est ensemble, on crée quelque chose, on échange, on partage. Et en fait, la véritable œuvre d'art, finalement, elle est à cet endroit-là, dans ce qui se joue. Et derrière, ils ont un souvenir. Ils ont une pièce, ils ont une œuvre qui est là, et ils peuvent raconter à tout le monde ce qu'ils ont vécu, cette belle histoire-là, et ce que ça évoque. Voilà, c'est ce que ça évoque.
Et donc, Lydie, c'est maintenant pour moi le moment de vous demander ce que les Landes et le Sud-Ouest vous évoquent.
C'est une sacrée question. Les Landes, moi j'ai jamais été landaise en fait. Je vis toujours en Gironde à l'heure actuelle. Mais je me sens. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui imaginent que je suis landaise. Et ça ne me dérange pas du tout. Je pense que je me sens plus landaise au final que girondine. Alors que voilà, même je n'ai jamais vécu dans les Landes, véritablement. Et donc ce que ça m'évoque, c'est. Ouais, c'est un territoire de richesse, quoi. C'est... Alors, même qu'il n'est pas perçu comme ça. Donc, c'est tout le paradoxe qui m'intéresse beaucoup aussi, de ce fait. Et le Sud-Ouest, ben, c'est ma région, depuis toujours. Donc, c'est ma patrie, c'est... je ne sais pas comment on peut dire. Après, je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger et qui aurait aimé peut-être vivre à l'étranger et partir. Et peut-être un jour, j'en sais rien, mais... mais en tout cas, je sens bien que voilà, c'est le berceau.
Nous allons donc maintenant, Lydie, évoquer le troisième souvenir que vous avez eu envie d'évoquer avec nous. Et ce souvenir est pluriel. Alors, je rappelle brièvement le concept de ces souvenirs choisis. C'est l'idée de comprendre une trajectoire de vie à travers quelques moments marquants. Et là, après la naissance de votre frère et votre passage à l'école des Beaux-Arts, vous allez nous parler de divers chocs émotionnels qui ont eu un impact sur votre existence.
Oui, après, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Hein. On a toujours, voilà, il y a des choses pas forcément très agréables qui arrivent dans la vie. Oui, c'est moi qui ai noté ce souvenir-là parce que justement, on parle de choses qui ont pu modifier ou être impactant un petit peu dans la trajectoire de vie. Donc oui, c'est sûr. Forcément, il y a dans ma vie, mais je vais rester sans doute mystérieuse encore là-dessus beaucoup. Mais oui, dans ma vie, il y a eu des chocs qui ont fait que ça a changé ma trajectoire ou que ça m'a forgé une carapace. Forcément. Mais je pense que pour tout le monde, en fin de compte. Et puis ça a été dès voilà, l'enfance jusqu'à même très récemment des choses qui ne sont pas forcément agréables à vivre, mais qui du coup, pourquoi ça reste quand même des choses importantes ? Parce que du coup, ça, c'est ce qui aussi m'a mis sur la trajectoire du diagnostic HPI-HPE. Parce qu'à un moment donné... quand on est comme ça au plus bas, on va dire, et que voilà qu'on cherche quand même à se relever parce que malgré tout on a quand même une force intérieure et que de toute façon bon ben on se relève hein, forcément, mais qu'on n'a pas le choix. On cherche quand même à trouver les solutions de pour être accompagné pour se relever. J'ai trouvé ça du côté j'évoquais tout à l'heure un peu spirituel, cartomancie, thérapie, des choses comme ça. Alors même que j'étais très très loin de ça avant. Et j'ai trouvé ça parce que, enfin, j'ai trouvé la force aussi parce qu'à un moment donné, on est obligé de passer par la case rendez-vous chez un psy. Ou ça, je crois que j'ai lutté toute ma vie en disant mais non, pas besoin, moi je suis forte. Enfin, franchement, j'ai pas besoin. Mais bon, voilà, les chocs émotionnels font que de toute façon, et à un moment donné, il y a un médecin qui vous dit vous n'avez pas le choix. Là, il va falloir y aller. Et ben c'est voilà, un mal pour un bien. Je pense que rien n'arrive par hasard dans la vie. Et je pense que même les choses très négatives qui peuvent nous arriver, en fin de compte, sont là pour nous appuyer sur un truc et pour qu'on puisse travailler ça et en ressortir beaucoup plus fort. Et donc, j'ai travaillé ça, pas forcément en compréhension tout de suite, puis en essayant de trouver quand même ce qui n'allait pas ou pourquoi ça me faisait ça, etc. Et puis, progressivement, on m'a aiguillée sur une voie, et j'ai pas voulu comprendre cette voie-là, parce que je me suis dit non, je suis pas du tout, c'est pas possible, ce n'est pas moi, je ne suis pas HPI, c'est pas possible. Je fais un déni énorme, pourtant ça répondait à plein de mes problématiques, ça me correspondait quand même plutôt pas mal, mais je pense que j'étais... voilà, on présente ça comme effectivement au potentiel intellectuel. Bon, non, je suis pas au potentiel intellectuel, enfin pas plus qu'un autre. Enfin, je veux dire non. Donc ça, j'ai été longtemps dans ce déni-là. Et en fait, quand j'ai compris que c'était juste un mode de fonctionnement différent, un mode de cognitif différent, voilà. C'est pas forcément qu'on est plus intelligent ou quoi du tout, mais c'est un mode vraiment cognitif différent. Et ça se mesure, et ça se vérifie, et c'est diagnostiqué, pardon. Et bien tout ça, ces chocs émotionnels, voilà, tout ça, font que ça m'a mis sur cette voie d'aller consulter, d'aller chercher comment je pouvais me relever, et du coup, de comprendre qu'en fait, un psy classique ne pouvait pas me relever parce qu'il ne me comprenait pas, parce que je ne correspondais pas à la norme, mon fonctionnement et du coup d'essayer de, bah, du coup, qui peut m'aider ? Et du coup, forcément, d'aller vers des personnes un peu plus spécialisées, habituées, pour trouver enfin des gens un peu comme moi. Et voilà, ça fait aussi du bien de se rendre compte qu'il y a des gens qui fonctionnent de la même façon et de se dire, en fait, je suis pas folle. En fait, depuis tout ce temps-là que j'essaie de correspondre aux autres, c'est pas que je suis... oui, je suis différente, mais c'est pas que je suis anormale, c'est que je correspond à une autre norme. Voilà, donc ça a été un chemin. Donc ces chocs émotionnels m'ont amené à cette compréhension-là, tardive, parce que normalement, évidemment, on est diagnostiqué enfant... Voilà, mais voilà, des mal pour un bien. Et puis je continue, hein, parce que j'ai jamais fini de comprendre comment ça fonctionne. Donc.
Mais c'est intéressant parce que finalement, la santé mentale, c'est quelque chose qui arrive un petit peu sur le devant de la scène. On commence à en parler, mais il faut en prendre soin. C'est important de le prendre en considération.
Oui, et puis moi, je viens d'une famille où, en gros, quand on va voir le psy, c'est qu'on est fou, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est bizarre. Donc, inconsciemment, j'avais peut-être ce côté-là de me dire, moi, je n'ai pas besoin, les autres d'abord. Voilà. Et la santé mentale, ouais, je mesure ça depuis quelques années, effectivement, que c'est quand même très important. Et puis, c'est fascinant. Mais c'est fascinant. C'est-à-dire que quand on met un pied dedans, quand on commence à regarder comment le cerveau fonctionne... Ils sont très avancés au Québec et en Belgique, aux États-Unis et en Angleterre aussi un petit peu, mais en France, pas du tout. Mais pas du tout. Donc j'ai mis des années à trouver la bonne personne pour me faire le diagnostic et maintenant pour me suivre sur cette voie-là.
Lydie, j'aimerais bien que vous nous parliez de la manière dont vous regardez ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a une forme de fierté ? Est-ce que vous êtes consciente de ce que vous avez fait ?
Alors, pas du tout.
Non, ça ne marche pas de commencer une fois.
Je ne regarde pas dans le rétroviseur du tout. J'ai beaucoup de mal à faire ça. Je me suis posé cette question-là parce qu'on me l'a posée, en fait, à un moment. On m'a dit, mais est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu as fait jusqu'ici ? Et je pense qu'effectivement, la petite fille que j'étais... serait hyper contente. Enfin, elle serait dit « Waouh, c'est génial, c'est extraordinaire, etc. C'est, ça a dépassé ce que la petite fille pouvait imaginer. » Mais moi, je vois toujours, je regarde devant. Hein. J'arrive pas du tout à regarder en arrière et à comptabiliser. Ou, non, je vois tout ce que j'ai encore envie de faire, quoi, plutôt.
Ça tombe très bien. Puisqu'on a quand même pas mal parlé de souvenirs. Pour clôturer cet épisode, j'aimerais bien que vous nous parliez de trois choses maintenant que vous avez envie de réaliser dans un futur plus ou moins proche.
Oui, évidemment, il y a plein de projets qui sont liés à la Forêt d'Art Contemporain, à la Maison de la Photographie des Landes. Il y a aussi évidemment ce projet que j'aimerais amener au bout, qui est d'avoir une collection de portraits photographiques de personnalités, voilà, et leurs histoires écrites. Et j'aimerais aujourd'hui j'en ai près une trentaine, mais j'aimerais en avoir beaucoup plus et pouvoir éventuellement publier quelque chose là-dessus. Ça voilà, j'aimerais beaucoup m'y remettre, avoir la liberté d'esprit et l'espace-temps pour m'y remettre. Et j'écris aussi, donc j'aimerais arriver au bout du livre que j'écris, voilà, pour pouvoir le publier un jour. Ça, je pense que c'est ça fait partie de l'utopie, voilà, parce que j'écris un peu au ralenti, je pense pas vraiment avoir de vrai talent d'écriture non plus, donc quand je me relis, voilà, je reprends, ça fait partie des choses que j'aimerais bien réussir à faire et aller au bout, voilà, après aller au bout, voilà, les choses que j'aimerais accomplir, c'est de faire en sorte que ma fille soit une belle jeune femme épanouie, enrichie de plein d'expériences et de l'accompagner au mieux que je peux, voilà, tous les jours, quoi. C'est merveilleux d'être maman aussi et de pouvoir voir cette évolution-là et voilà, c'est ma petite puce. Ça fait partie de tes beaux projets, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Merci beaucoup, Lydie.
Merci beaucoup, Margot.
faut oser, il faut se lancer. Et peu importe l'embarcation, l'important c'est d'être sur l'eau.
C'est utopique, hein, mais j'aimerais que les personnes noires, les femmes, toutes les personnes aujourd'hui qui sont discriminées puissent se lever tout simplement en pensant qu'elles sont des êtres vivants, quoi, sans avoir à se poser d'autres questions.
I wouldn't want to finish with anyone else than you guys.
Ah, je suis une Bluetooth dans l'âme.
Dans tous ces aspects, finalement, on retrouve toujours la même chose, c'est-à-dire.
Et elle m'a vraiment guidée pas à pas pour mon premier.
Un aspect d'intérêt pour la dynamique d'un territoire.
Juste parce qu'elle a dit oui, je suis l'artiste que je suis aujourd'hui.
Je la redécouvre encore maintenant avec un regard décolonial et je trouve que c'est.
Donc, après, c'est
une puissance incroyable.
C'est pas forcément rentrer dans le moule, mais.
Oui, ça, c'est une affaire de rencontre et d'alchimie, ça, c'est sûr.
Le territoire landais est vaste, beau et avec plein d'opportunités. Réellement.
Beaucoup de monde me connaît par rapport au fait que je suis une athlète. Maintenant, en effet, j'ai plus à donner, j'ai plus à partager et j'aimerais que ce soit su, que ce soit connu.
Merci à tous pour votre écoute et à bientôt chez les femmes de chez moi.